Sommes-nous vraiment prêts pour la société bas carbone? Si l'année 2020 a vu les émissions de gaz à effet de serre baisser d'environ 5%, confinement oblige, la reprise économique marque leur grand retour. Les constats de la COP et du GIEC sont sans appel. La trajectoire décidée en 2015 à Paris ne sera pas respectée, sauf miracle, ou à moins d'un effort drastique. Bon, disons qu'entre le miracle et l'effort, on va plutôt miser sur l'effort. Mais quel type d'effort? Plus d'innovation ou plus de renoncement? Ces efforts, comment les rendre plus équitables? Enfin, comment ne pas se laisser gagner par une forme d'éco-anxiété? Comment retrouver foi en l'avenir alors que tous les indicateurs semblent nous dire que la situation est désespérée, mais pas grave? Bonjour à tous, je suis Thierry Keller, vous écoutez Ça change tout, le podcast d'EDF qui explique les enjeux de la transition énergétique et vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons encore plus que d'habitude tenter de comprendre comment tout peut changer vers la société bas carbone avec mes trois invités. Laurence Monnier-Smith, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice du développement durable du CNES. Vous avez été auparavant commissaire général au développement durable. Avec vous, nous verrons comment l'État et la puissance publique au sens large sont capables de faire advenir cette société bas carbone. À vos côtés, Stuart Shaw. Bonjour Stuart.
Bonjour.
Vous êtes responsable des études politiques et sociétales à l'Institut Via Voice. Vous êtes aussi l'auteur avec Frédéric Dabi de La Fracture, une enquête sur la façon dont les jeunes font sécession avec les mœurs, les choix, les valeurs des générations précédentes et en particulier, évidemment, sur la question qui nous anime aujourd'hui, celle du climat. Enfin, justement, nous accueillons Léa Falco. Léa, vous êtes étudiante à Sciences Po, membre du Manifeste pour un réveil écologique. Et vous nous direz ce qu'est ce Manifeste pour un réveil écologique. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. La société bas carbone est-elle synonyme de frugalité? Les efforts à consentir doivent-ils s'accompagner de restrictions? Pour lancer ce premier thème, je vous propose d'écouter ce qu'en dit Denis Oliven, le patron de Libé, qui dans un ouvrage récent, Un étrange renoncement, nous disait qu'il fallait, pour s'en sortir, encore plus de croissance et d'innovation pour venir à bout du réchauffement. On l'écoute et on se retrouve juste après.
Je ne crois pas qu'on va pouvoir sauver de la planète en proposant aux citoyens de détruire la société dans laquelle ils vivent et qu'ils aiment. Et d'ailleurs, chaque fois qu'on essaie de le faire, ça ne marche pas. Donc, si on leur donne à choisir entre la fin du mois et la fin du monde, pour reprendre une expression, ça va le faire. Donc, bien sûr, le risque climatique est immense. Bien sûr, il faut le traiter, mais il faut le traiter en essayant de trouver un chemin qui est fondé sur l'innovation et qui permet bien sûr des changements de comportement, mais qui va nous permettre de consommer beaucoup moins d'énergie pour produire d'une part, et d'autre part de consommer une énergie qui a beaucoup moins de CO2 qu'aujourd'hui. C'est ça, ça s'appelle le découplage, découpler la croissance de l'activité économique de la croissance du CO2. Et c'est ça la seule voie raisonnable, celle qui permettra d'obtenir le soutien des citoyens. Toutes les autres voies, la décroissance, l'austérité, etc., seront repoussées par la population. Je ne crois pas du tout que la société bas carbone veuille dire frugalité. Si c'est ça, nous n'obtiendrons pas l'assentiment des citoyens. Elle veut dire une façon de consommer, mais ce n'est pas la rupture avec la société de croissance et de consommation, parce que les citoyens veulent la croissance et la consommation. C'est simplement une société de croissance et de consommation verte, plus intelligente et plus respectueuse de l'environnement.
Alors, Laurence Bonnet-Smith, je me tourne vers vous en premier. Comment on fait pour atteindre la société bas carbone? Est-ce qu'il faut plus de croissance?
Alors, les discussions qu'on a sur ce sujet-là, je les trouve très souvent extrêmement caricaturales. Et le propos qu'on vient d'entendre s'inscrit dans cette lignée. Qu'est-ce que c'est que la croissance? En fait, pour pouvoir bien répondre à cette question, il faut se poser la question de savoir ce que c'est que la croissance. Comment on la comprend? Or, si on mesure la croissance en produit intérieur brut, en PIB, on sait très bien qu'historiquement, la croissance est, dans son ADN, liée à la production et à la consommation d'énergie. Ça va ensemble. Et dans l'histoire, nous avons vu une consommation d'énergie qui allait de pair avec la croissance, et en particulier dans les 30 Glorieuses, et peu après. Si on prend entre 1973 et 2019, on a une croissance de la consommation énergétique de 115%, donc qui est liée à notre croissance du PIB. Quand on pose la question comme ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si notre croissance, telle qu'on la comprend aujourd'hui, telle qu'elle est définie dans notre modèle économique, est liée à l'énergie, il est évident que si nous avons un problème avec l'énergie, nous avons une question autour de la croissance. Comment on la résout? On peut tout à fait dire, et on l'a pensé, on l'a imaginé, on l'a même chiffré, on peut imaginer faire un découplage, ce qu'on appelait découplage, entre croissance, consommation énergétique et consommation des ressources. Parce que ça va ensemble. Mmh. En fait, pour avoir de la croissance, il faut produire de la valeur, produire des biens et des services. Ça consomme des matières et ça consomme de l'énergie. C'est assez facile à comprendre. Donc, il faut organiser ce découplage en étant plus productif, c'est-à-dire consommer de moins de matière pour le même service ou pour le même bien, consommer moins d'énergie pour le même service ou le même bien. Ça, c'est possible. On avance sur ce chemin-là, on avance, et effectivement, il y a un certain nombre de progrès. Une deuxième voie, c'est de dire, eh bien, je passe la problématique du réchauffement climatique, c'est la production d'émissions de gaz à effet de serre, c'est les énergies fossiles, on est au niveau mondial à peu près à 90% d'énergies fossiles. Si on arrive à découpler la croissance des énergies fossiles, là encore, on fait un bout du chemin. Donc, ce qu'on peut dire de façon absolument certaine, c'est que la croissance telle qu'on la connaît ne peut pas perdurer si on souhaite limiter les effets du changement climatique. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse des efforts absolument considérables si on souhaite continuer à s'inscrire dans ce chemin de croissance. Ou alors il y a une autre solution, c'est qu'on redéfinisse ce que c'est que la croissance. Après tout, définir la croissance par son PIB, ça a été suffisamment contesté par des tonnes d'économistes de par le monde, pour se dire, si dans ma définition de la croissance, je prends en considération le capital naturel, le bien-être et la santé, et que j'intègre ça dans mon système de comptabilité, à ce moment-là, potentiellement, je pourrais avoir une forme de croissance qui soit calculée autrement et qui soit beaucoup plus résiliente et beaucoup plus durable.
Donc il va falloir aussi qu'on sache redéfinir le terme même de croissance, en tout cas celle qui est fondée sur l'extraction des énergies fossiles. Léa Falco, je disais, vous êtes membre militante, vous assumez le mot militante?
Bien sûr, oui.
Dans le manifeste pour un réveil écologique, où vous demandez, j'allais dire, il y a une forme d'injonction aux entreprises de changer de voie. Quel est ce manifeste pour un réveil écologique et quelle est la prise de conscience qui, tout à coup, a été celle des jeunes diplômés, en particulier des hauts diplômés, puisque vous êtes vous-même étudiante à Sciences Po, mais il y a eu aussi des élèves de Polytechnique, d'HEC.
Oui, tout à fait. Et juste pour revenir sur le sujet de la croissance, il y a aussi quelque chose qui est fondamental et essentiel, je pense, à prendre en considération, c'est qu'aujourd'hui, la croissance est une religion, en fait, c'est un totem. C'est le mot croissance en lui-même est quelque chose qu'on vénère, alors que chercher la croissance pour la croissance, on est quand même dans une forme de tautologie qui, à mon sens, ne va pas grand pas. Maintenant, sur le manifeste pour un réveil écologique, aujourd'hui, on est le collectif pour un réveil écologique, mais on est né de ce manifeste qui est sorti en septembre 2018, où en fait il y a une dizaine de jeunes de grandes écoles qui sont rassemblés et qui ont fait le constat qu'en fait les métiers auxquels ils étaient promis à la sortie de leur école n'étaient pas complètement cohérents avec les engagements personnels qu'eux avaient et qu'ils avaient envie de rééquilibrer la balance et en gros de ne pas aller travailler en vélo chez des pétroliers, quoi. Donc l'idée de vraiment pouvoir réconcilier ces engagements personnels avec les engagements qu'on prend dans sa vie professionnelle, parce qu'en tant que jeune de grandes écoles, et c'est ça qui est devenu ensuite le manifeste, en tant que jeune de grandes écoles, on a cette forme de responsabilité, parce qu'on a le choix de notre emploi, en fait. Et l'idée derrière, c'est de se dire, ok, nous, on a le privilège d'être dans de belles écoles, on va avoir des diplômes un petit peu scintillants sur le CV.
Et vous êtes très recherché.
Et bien, voilà, absolument, c'est tout à fait ça. On va avoir des diplômes qui font bien, et en fait, du coup, on va avoir le choix de nos emplois. Et tout le message derrière le manifeste, c'est choisissez bien, parce que il faut qu'on ait des entreprises qui soient compatibles avec les trajectoires planétaires. Ça, de toute façon, c'est pas un choix, c'est pas un caprice, c'est une obligation. Et du coup, nous, en tant que futurs cadres de ces entreprises, pour ceux qui choisiront de se diriger vers les entreprises, on a cette responsabilité de participer à leur transition et à leur transformation interne. Et donc, c'est ça, on a ce volet entreprise-là, où vraiment, c'est la pression à l'emploi, c'est du chômage à l'emploi.
C'est
oui.
Une inversion du rapport de force qu'on a...
Totalement, et ça fonctionne, en fait, parce que recruter de nouveaux talents, et en fait, recruter des managers, recruter des ingénieurs qui sont engagés et qui, en fait, ont envie de travailler dans ces entreprises-là, c'est de plus en plus difficile pour eux.
Et cette nouvelle pression, est-ce qu'elle fonctionne? En tout cas, est-ce que, au-delà des bonnes intentions, on a souvent parlé évidemment de greenwashing. Est-ce qu'au-delà des bonnes intentions, les grandes entreprises auxquelles vous vous adressez font l'effort, s'engagent réellement? Est-ce qu'au-delà même de leur sincérité, qui parfois peut être totalement légitime, est-ce que la sincérité est suivie des faits?
Pas toujours. Hein.
Alors, on n'est pas à la télé, donc je regarde votre mimique est disons dubitative.
Dubitative parce que on a eu 33 000 signataires à ce manifeste qui depuis est devenu le collectif. Donc en fait ça nous a donné une légitimité, une porte d'entrée pour aller leur parler, aller discuter avec eux et voir un petit peu au-delà des effets d'annonce que le greenwashing, justement. Et en fait, on leur a envoyé un questionnaire assez long avec 5 grandes parties qui prenaient en compte pas seulement les émissions de gaz à effet de serre, hein, mais l'impact sur la biodiversité, l'impact sur les ressources. Et on l'a envoyé à une centaine d'entreprises. On a eu à peu près la moitié qui nous ont répondu. Et en fait, il y avait certaines de ces questions quand même qui étaient assez poussées et qui ne les laissaient pas raconter n'importe quoi. Il y avait une question que moi j'aime bien qui est est-ce que vous seriez prêt à renoncer à un peu de profit pour vous aligner, un peu ou beaucoup de profit pour vous aligner sur les réponses planétaires ? Les réponses sont disponibles sur notre site, pour un rêve écologique.
Un peu d'accord, beaucoup non.
Bon, disons que en fait, ça devient des spécialistes de ce sujet-là. Les entreprises, hein, elles ont des pôles RSE, elles ont des gens qui travaillent à temps plein là-dessus. Et aujourd'hui, comme on ne peut plus passer à côté du sujet du réchauffement climatique et des problèmes environnementaux dans leur sens plus large, elles sont obligées de répondre à ces questions. Maintenant, le problème, c'est celui de leur sincérité. Et en fait, ce qu'on pense, c'est que tant que l'environnement ne sera pas un sujet transversal dans toute l'entreprise et pas seulement cloisonné dans le département RSE, vous ne pouvez pas avoir de changement global. Vous ne pouvez pas avoir de transformation totale et holistique de l'entreprise qui va vous mener vers un ajustement planétaire. Donc ces entreprises-là, elles sont obligées de changer. Donc elles le font petit à petit et pour la grande majorité pas assez rapidement, en sachant aussi qu'il y a des processus qui sont quand même de plus long terme. Mais il faut qu'elles intègrent aussi dans leur logiciel la nécessité impérieuse, le fait que ce ne soit pas un choix aujourd'hui de se transformer. Et que celles qui le font aujourd'hui auront un avantage comparatif demain, en fait.
Y compris en termes de marque employeur, si je vous suis.
Totalement. En termes de marque employeur, mais pas seulement. Sur le point de vue purement économique, elles vont avoir un avantage. Parce que là, avec on a le Fit for 55 en Europe, on a tout un tas de plans européens qui se développent. Et en fait, petit à petit, on voit qu'on s'achemine vers des normes qui vont en fait contraindre les entreprises à changer. Donc en fait, celles qui l'auront déjà fait auront un avantage comparatif parce qu'elles n'auront pas à mettre en place sur le tard toutes ces transformations-là.
Ok, Tuartio, je me tourne vers vous. Je le disais, vous êtes le co-auteur d'un ouvrage important qui s'appelle La fracture. Alors évidemment, comme son nom l'indique, vous faites état de cette fracture générationnelle. Vous écrivez d'ailleurs dans le livre que la prise de conscience écologique constitue bel et bien une partie centrale de l'identité de la jeunesse. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Je pense qu'effectivement, la jeunesse est sur l'enjeu de l'environnement, de l'écologie, est peut-être l'acteur le plus légitime à intervenir. C'est-à-dire qu'il y a une forme de légitimité assez naturelle qui s'exprime dans la jeunesse, étant finalement les dépositaires aussi d'une histoire de conséquences de choix qui n'ont pas forcément réalisé, n'étant pas nés. Donc il y a une forme de légitimité déjà à s'engager qui pousse cette jeunesse-là effectivement à épouser tous ces mouvements de contestation, d'opposition, de dénonciation, d'engagement positif, de transformation, de bouleversement dans le monde du travail, dans les exigences en attente des entreprises, des partis politiques, du débat public. Donc un engagement assez naturel et légitime. Le deuxième aspect, en tout cas, c'est aussi l'ode finalement à l'action individuelle qui est poussée aussi par la jeunesse, qui, pour le coup, déstructure un petit peu les mouvements politiques du moment. C'est-à-dire que pour comprendre un petit peu comment la jeunesse s'engage aujourd'hui, je pense que l'enjeu de l'environnement et leur engagement sur cet enjeu-là est assez parlant. Quel enjeu il y a aujourd'hui, autre que l'environnement, qui donne crédit à l'engagement individuel ? Et ça, je trouve que cet engagement et cette ode à l'engagement individuel, qui d'ailleurs peut-être lié aussi à la défiance qu'ils ont de plus en plus envers les institutions publiques, envers aussi nos décideurs politiques, et l'expression vraiment de cette volonté par l'environnement de se replacer au cœur de l'action politique, et finalement de reprendre aussi cette capacité à agir, pour le présent et pour l'avenir. Et le troisième élément, pour revenir sur ce qui a été dit, c'est que je pense que ce qui se joue actuellement, c'est peut-être deux visions un peu bifides, je dirais, de l'enjeu. La première vision, elle consiste à dire que la transition écologique, c'est presque une transition du progrès technique. C'est-à-dire que finalement, on va faire comme on fait aujourd'hui, mais avec de nouvelles technologies qui vont faire qu'on va moins polluer.
Ce que disait Denis Oliven dans la petite pastille sonore de tout à l'heure.
Absolument. Qui peut s'opposer à une vision effectivement beaucoup plus radicale, qui consiste à dire que l'écologie, c'est d'abord un combat aussi sur soi. Et je pense que les Français, notamment la jeunesse, s'interrogent sur cette troisième voie. Est-ce qu'elle existe ? Est-ce qu'elle est possible ? Est-ce qu'elle a du sens ? C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce que ça veut dire que de vivre dans une société, en France ou ailleurs d'ailleurs, dans 10, 20, 30 ans ? Vous savez, la question de la neutralité carbone, on y viendra évidemment, elle est très floue dans l'opinion. L'opinion, elle attend des éléments non pas forcément de l'aspect de l'idéal ou une vision à 50 ou 60 ans, elle demande simplement de savoir quelles vont être les ruptures, les bouleversements nécessaires pour épouser cette société bas carbone, qui est d'ailleurs, pour la société française et l'opinion publique, une adhésion assez massive de la part de l'opinion. Donc moi, je pense qu'il y a cette difficulté aujourd'hui à effectivement concevoir une vision sociétale dans ces 10, 15, 20 prochaines années pour l'opinion. Et le dernier point, si vous me permettez, c'est que je pense que la jeunesse est peut-être le moyen de finalement faire émerger cette nouvelle vision-là. On a appelé ce livre La Fracture, vous avez raison, on aurait pu l'appeler la jeunesse diffusionniste, c'est-à-dire cette jeunesse qui influence...
Ça aurait été moins vendeur, si
je peux me permettre. Vrai, vous avez raison. En tout cas, c'est ce que nous a dit l'éditeur, mais je pense que la jeunesse diffusionniste, elle caractérise bien cette jeunesse qui va influencer finalement son monde et son environnement. Et je trouve que ce qui est frappant, c'est que cette jeunesse qui s'engage autour de l'environnement, c'est cette jeunesse qui met au cœur de la matrice de pensée l'environnement. L'environnement, ça devient du travail, l'environnement, ça devient du social, l'environnement, c'est de l'éducation, l'environnement, c'est de l'économie. Et je pense que la jeunesse impulse ce mouvement-là qui fait qu'il y a un ensemble d'acteurs qui sont obligés, effectivement, de se transformer au premier rang d'école, les entreprises.
Alors, est-ce que cette jeunesse, elle est dans une forme d'injonction ou est-ce qu'elle est dans une forme, je dirais, d'avant-garde, disons, diffusionniste, d'avant-garde bienveillante? Est-ce que, en gros, elle est plutôt encline à suivre une Greta Thunberg, hein, ou est-ce qu'elle est plutôt dans des petits pas, ou est-ce qu'elle est plutôt consumériste? Est-ce qu'elle va y aller doucement et tranquillement? Est-ce qu'elle-même est fracturée en son sein, cette jeunesse?
Alors effectivement, la jeunesse, elle ne déroge pas à la règle du tiraillement. C'est-à-dire qu'on a beau avoir des aspirations personnelles, on vit dans une société qui a ses règles, qui a ses contraintes, et que c'est toujours aussi difficile parfois de faire face à des contraintes qu'on a choisies ou pas, consciemment ou inconsciemment. Donc ça, effectivement, la jeunesse, elle reste pour une partie d'entre elles consumériste, mais parce que finalement, elle vit aussi dans une temporalité qu'elle ne choisit pas entièrement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je suis quasi sûr pour le coup que la jeunesse, elle, ne se pose pas la question de savoir si elle est de l'ordre de l'injonction ou pas. Et je ne suis pas sûr non plus qu'elle soit dans une forme de rupture avec les générations précédentes et dans une volonté finalement de fracturation avec les générations qui l'a précédée. Pour une raison qui est très simple, c'est qu'ils savent aussi finalement leur capacité d'influence. Et pour influencer, il faut aussi accepter de s'adresser à d'autres. Et je pense que sur l'ensemble du bouquin, on évoque les nouveaux espaces de mobilisation, ces nouveaux espaces aussi de communication que la jeunesse emprunte très facilement et qui arrivent finalement à influencer et à impacter son environnement. Donc je ne pense pas que ce soit vraiment une rupture générationnelle. Je pense que c'est une fracture désirable et souhaitable pour tout le monde.
Ok, très bien. Alors justement, on va s'intéresser à cette affaire de l'acceptation et de l'acceptation politique et de la façon dont la société entière est embarquée. On a, vous le savez, souvent opposé hein, la dite fin du monde avec la fin du mois. L'enjeu est de mener des politiques publiques qui soient à la fois efficaces et acceptables socialement. Donc je vous propose d'écouter maintenant ce qu'en dit Agnès Michelot, qui est la présidente de la Société française pour le droit de l'environnement et qui a notamment écrit il y a quelques années déjà avec Jean Jouzel hein, du GIEC. Un rapport pour le Conseil économique, social et environnemental intitulé « La justice climatique, enjeux et perspectives pour la France ». On se retrouve dans quelques instants.
Pour moi, cette opposition, elle est complètement dépassée. On n'est plus fin du mois, fin du monde. Il faut penser ensemble les problématiques sociales et environnementales. Changer l'approche consiste à la fois se mettre dans une conscience d'urgence écologique et à la fois à mobiliser tous les instruments dont nous disposons en France, et ils sont nombreux. On a des politiques sociales déjà développées, de lutte contre la pauvreté notamment, mais qui ne fonctionnent pas en lien avec l'adaptation au changement climatique. Inversement, on développe des outils, des politiques publiques, des stratégies d'adaptation au changement climatique, mais sans avoir tenu compte des enjeux sociaux. On ne peut pas réaliser une transition ou une transformation sociale sans connaître la société dans laquelle on est, dans sa diversité d'évolution sociale, d'attentes économiques et dans sa diversité de territoire. Si on doit donner un exemple flagrant de l'enjeu de justice climatique, c'est la question de la santé. Il faut intégrer dans nos politiques de santé les enjeux environnementaux et notamment l'enjeu climatique. Et il faut le faire à toutes les échelles, à l'échelle nationale et à l'échelle territoriale. Les changements climatiques, c'est des problèmes respiratoires, c'est des problèmes vasculaires. C'est du stress, hein. Il y a de l'éco-anxiété de plus en plus chez les jeunes, maintenant c'est établi. Une augmentation de température qui va concourir au développement des virus. Donc, tous ces risques-là sont liés au changement climatique et pèsent sur notre santé. Donc, ce sujet-là, à mon avis, il peut être consensuel. Il faut avancer sur la notion d'une seule santé assez rapidement.
Laurence Monnier-Smith, je me tourne vers vous. Tous les responsables politiques, hein, quand on les interroge, nous parlent de l'incroyable complexité de faire consensus. Et quand on appuie sur un levier, un autre ne suit pas. Vous avez été, au gouvernement, hein, vous étiez commissaire général, donc ce n'est pas exactement pareil. Maintenant, vous voici dans une entreprise publique, un EPIC en l'occurrence. Comment on fait quand on est aux manettes, je dirais, pour envisager cette complexité et quels sont les leviers dont on dispose? Est-ce qu'il est possible de faire consensus?
Alors, j'aurais une réponse un peu de sociologue à cet égard-là. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est très compliqué puisque, comme le disait Léa tout à l'heure, en fait, on va devoir remettre en cause des fondements extrêmement structurants de la société. Typiquement, effectivement, nos changements de pratiques, de déplacements, nos changements dans le domaine de l'agriculture, etc., viennent impacter des structures fondamentales de la société, c'est-à-dire des rapports de domination, c'est-à-dire des entreprises qui existent depuis très très longtemps, qui ont des marchés avec des emplois, etc. Et quand on commence en fait à toucher à ça, par définition, c'est d'une grande complexité. Les sujets, c'est très bien. Moi, je me rappelle très très bien avoir été participer à des discussions sur la fermeture de Fessenheim. Quand on se met autour de la table, on a des salariés qui travaillent à Fessenheim. Je veux dire, on a des gens, Et donc, on a beau avoir une forme de consensus. Ça ne veut pas dire un accord parfait.
Enfin, il n'y a plus de climato-sceptiques dans l'espace public, ou alors ils se cachent.
Voilà, mais on peut avoir une forme de consensus à un certain niveau de valeur, comme vous le dites, on ne va pas revenir sur la question du changement climatique. Ça ne veut pas dire qu'à des niveaux plus micro, il n'y a pas des dissensus. Par exemple, on a un sujet qui est de dire qu'il faut qu'on augmente notre mix énergétique, et donc ça veut dire développer des centrales photovoltaïques, ça veut dire développer par exemple des éoliennes. On a un accord. Et puis quand on va sur le terrain, les gens ne veulent pas des éoliennes, on n'a pas suffisamment de terre pour pouvoir poser des panneaux photovoltaïques. Et donc vous voyez que ce consensus qu'on peut avoir à un certain niveau, quand on descend au niveau du dessous, dans les discussions, c'est beaucoup plus compliqué et c'est là que les Athéniens s'atteignent. Alors comment est-ce qu'on résout ça? En tout cas en démocratie. On va dire qu'on va se situer dans un paradigme démocratique, hein, si vous le voulez bien, parce que après tout, il existe d'autres voies très Absolument. Efficaces,
plus autoritaires, disons.
Plus autoritaires, qui sont un chemin, et on va considérer que c'est pas celui que nous souhaitons suivre. Comment on fait dans ce contexte-là? On a dans notre escarcelle des outils de participation citoyenne. On a vu fonctionner, par exemple, la conférence citoyenne sur le climat. On a des outils de débat public. On a une commission nationale du débat public. On a des tas d'outils de référendum, de discussion, etc., y compris dans des nouveaux formats, dans des nouvelles aires, dans lesquelles on peut aller chercher des personnes qu'on n'écoutait pas régulièrement. Et à ce moment-là, on peut arriver, par l'écoute, à trouver un certain nombre de solutions. Et la conférence citoyenne sur le climat, alors je ne vais pas ergoter sur ce qu'on en a fait, etc. Il n'empêche qu'on met autour de la table un certain nombre de gens qui peuvent entendre. On peut tous entendre que c'est compliqué pour quelqu'un qui travaille sur une parcelle agricole. On peut tous entendre que lui dire que t'arrêtes les nitrates en 2 ans, ça le met dans une situation personnelle extrêmement difficile. Nous sommes tous capables de l'empathie à ce niveau-là. Et la question est de se dire, à partir du moment où on a suffisamment conscience des contraintes des uns et des autres, quelle est la voie que nous allons suivre? Et ça marche. Enfin, je veux dire, on trouve des solutions.
Comme le disait Léa, le problème, c'est la rapidité.
La difficulté, c'est peut-être un peu le temps, et c'est vrai qu'on a beaucoup trop traîné. On a beaucoup trop laissé la parole aux experts, pas suffisamment aux citoyens. Pour pouvoir travailler sur ces accords-là. En tout cas, ça va être absolument indispensable, encore une fois, si on ne veut pas passer par des voies qui sont des voies autoritaires. Après, de toute façon, il faut, à mon avis, faire le deuil d'une certaine forme de consensus. On n'y arrivera pas, en tout cas à un niveau micro. En revanche, il faut que ce soit compatible avec nos règles démocratiques, c'est-à-dire que ça emporte suffisamment d'adhésion pour pouvoir avancer. Mais c'est vrai que c'est très complexe.
Alors, mettre ensemble des acteurs, essayer de rassembler des positions, mais je me tourne vers vous, Léa Falco. On avait la conversation avec Stuart à l'instant sur l'éternel débat, est-ce qu'il existe une ou deux jeunesses ? Quand des jeunes activistes, alors que ce n'est pas vous, hein, je vous rassure, d'Extinction Rébellion, empêchent d'autres jeunes, par exemple pendant le Black Friday, qui sont des jeunes de classe populaire ou de quartier difficile, qui viennent aller consommer, je pèse mes mots, hein, vraiment acheter des choses qui potentiellement font du mal à la planète. Est-ce qu'on n'est pas là face à une forme de perplexité entre d'un côté une jeunesse très conscientisée et de l'autre côté une jeunesse qui a envie elle-même de profiter de sa propre forme de croissance ?
Ouais, je ne sais pas si le mot est perplexité, mais enfin, il y a évidemment...
En tout cas, de doute quasi politique.
Oui, mais il y a des problèmes évidents à résoudre. Et en fait, ce qu'on a entendu tout à l'heure dans la capsule sur le besoin de ne pas opposer la fin du monde et la fin du mois, là, on est exactement là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les mêmes problématiques. Si vous avez des difficultés économiques, elles vont aller de pair avec des difficultés environnementales. Et de toute façon, on sait que à l'avenir, il y aura de plus en plus de difficultés pour les gens qui sont en difficulté économique. Et qu'en fait, les gens qui vont être affectés sont les gens qui sont en difficulté économique. Maintenant, et c'est aussi ce que je racontais tout à l'heure, hein, sur le fait d'avoir un privilège et de l'utiliser. Le privilège du diplôme, de pouvoir l'utiliser pour transformer les entreprises
c'est
et transformer la société
française.
C'est un atout et c'est plus que ça, c'est une responsabilité, en fait. Là, le problème que je vois, en fait, dans l'opposition de la fin du mois et de la fin du monde, c'est qu'en fait, il y a une individualisation de la responsabilité. Alors que, de fait, si on se met dans cette perspective-là et qu'on se dit, en fait, c'est à chacun d'agir et si chacun agit, ça marchera, c'est que c'est pas vrai. Il y a un rapport du Chiffre Project, donc qui n'est pas un rapport institutionnel, mais qui se base quand même sur des calculs, qui avait estimé à environ un quart la possibilité d'action par les citoyens. Donc ça veut dire qu'il y a 75% de la responsabilité qui n'est pas entre les mains des individus. Et ça, c'est hyper important de le dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a un besoin de transformation structurelle politique, donc d'un pouvoir politique fort qui va aider les citoyens, non seulement à accepter, mais en plus à désirer la transition, et qu'il y a un besoin de changement des entreprises, sur lequel, du coup, nous, on travaille avec Point Rêve écologique.
Par exemple, quand on vit à la campagne, on a besoin de sa voiture.
Oui, on a besoin de sa voiture. La question de l'aide politique et en fait de la construction et de la transformation des modes de vie, elle passe aussi par une aide des pouvoirs publics. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes à la campagne, et même si vous êtes en banlieue, hein, et que vous avez besoin de votre voiture, on ne vous enlève pas votre voiture du jour au lendemain. On vous propose des...
Ni on ne vous stigmatise, ni on ne vous culpabilise
finalement.
Non,
et voilà, parce que la culpabilisation, ça renvoie à l'individualisation. C'est toujours la même chose. Et donc, ça vous dit que le problème environnemental est un problème à régler par chaque individu. Ce qui, de fait, est à la fois le cas et pas le cas. Parce que vous avez aussi besoin d'un accompagnement politique. Majeur et structurel. On est d'accord qu'il y a plein de problèmes et que c'est difficile à faire, mais en fait, c'est que c'est pas la question de pouvoir le faire ou pas, c'est la question de devoir le faire. Et en fait, il y a ce besoin fondamental aujourd'hui de faire commencer à bouger les lignes. Et à ça, un citoyen tout seul dans son coin, même s'il fait tous les efforts qu'il faut, très rapidement, il se retrouve confronté au mur de moi je fais tout ce qu'il faut et il y a rien qui change.
Et pourtant, ça marche pas.
Et ça s'appelle, c'est une vraie théorie, hein, ça s'appelle le triangle de l'inaction. L'idée qu'on se renvoie tous la balle et qu'en fait, c'est la faute de tout le monde. Parce que c'est vrai, c'est la faute de tout le monde. Et du coup, et ceux qui ont la plus de responsabilités et le plus de pouvoir, le plus de levier potentiel, doivent prendre leurs responsabilités. Et ces gens-là, c'est pas les individus, c'est les entreprises et les pouvoirs publics.
Malgré tout, je vais me tourner vers le spécialiste de l'opinion. Est-ce qu'on peut mesurer, Stuart Cho, ces tiraillements ? Et est-ce que d'ailleurs, dans la part la plus importante dont Léa vient de nous parler, c'est-à-dire les 75% qui ne sont pas des acteurs individuels, est-ce que là aussi, il y a des enquêtes qui nous permettent de sonder un peu les âmes, à la fois des citoyens, mais aussi des entreprises, voire des acteurs publics ? Est-ce que les gens sont prêts à faire cette bascule sans se regarder les uns les autres en disant « c'est à vous, c'est à toi de faire le taf » ?
Je pense que les gens sont prêts. Nous, on suit depuis 1957 dans ce bouquin le taux d'engagement de la jeunesse sur différents...
Je précise pour nos auditeurs que vous n'êtes pas né.
Je n'étais pas né, voilà. Effectivement, pour la première vague en 1957. Mais on a les données historiques et on a eu un taux d'engagement aujourd'hui sur ces enjeux-là qui est assez historique. Donc ça, c'est quand même un premier point qu'il faut souligner. Donc, il n'y a pas une nécessité pour la jeunesse de se dire est-ce que les autres s'engagent pour que moi, je m'engage. Donc ça, déjà, c'est un premier point important. Le deuxième point, c'est que ce que vous dites, qui est très juste... Dans l'opinion, et notamment dans les jeunes, cette vanité aujourd'hui du vote, cette non-confiance, cette défiance aujourd'hui qu'ils ont à l'égard du pouvoir politique, elle est aussi historique. 10% des 18-30 aujourd'hui font confiance aux acteurs politiques pour trouver des solutions efficaces pour lutter contre le réchauffement.
Ça paraît presque énorme.
Ça paraît presque énorme. Alors certains nous disent mais c'est catastrophique, d'autres disent mais c'est un excès de lucidité. Je sais pas. Mais en tout cas, l'attente, elle est clairement établie, c'est-à-dire qu'ils considèrent que les changements, les bouleversements, les ruptures ne procéderont pas aujourd'hui du pouvoir politique. Ce qui est, à mon sens, problématique, puisqu'effectivement, et on l'a rappelé, il y a une nécessité évidente à réguler tout ça de manière collective et à faire des choix de vision. Encore une fois, on revient sur ces idées-là, mais l'approche sociologique dit qu'à un moment donné aussi, il faut une vision de société qui s'impose, et d'ailleurs sur lesquelles on peut absolument débattre. Le troisième point, c'est que je pense que ce qui est intéressant dans ce que l'on dit, c'est que l'environnement est peut-être devenu le nouveau terme du conflit social du XXIe siècle. Et je pense que là, aujourd'hui, la crise de la représentativité politique, elle émane aussi du fait qu'on a l'impression que les termes du conflit politique ou du débat politique ne sont pas forcément en phase aujourd'hui avec les termes du conflit social du point de vue de l'opinion. Et je pense que cette capacité aujourd'hui que la jeunesse d'ailleurs a à impulser dans l'agenda politique une thématique telle que l'environnement au croisement de plein d'enjeux est une nécessité et quelque chose d'extrêmement positif. Je rajouterai une dernière chose, c'est que c'est aussi à l'aune de cette nouvelle dynamique et de la propulsion de la jeunesse comme force d'engagement qu'aujourd'hui, le lien entre environnement et climat n'est plus du tout à établir. On a une jeunesse qui fait le lien aujourd'hui, effectivement, entre l'environnement et le climat, et qui n'est les générations précédentes faisaient plutôt le lien entre, effectivement, environnement, pollution des océans, des airs, etc. Donc on a déjà une propulsion, je dirais, de la thématique de la sémantique environnementale perçue de manière beaucoup plus globale. Donc on parle du climat, on parle vraiment de ces enjeux, de cet enjeu planétaire. Et enfin, le deuxième élément, c'est que, à mon sens en tout cas, je pense que cette capacité qu'ont les jeunes aujourd'hui à mobiliser le corps politique n'est qu'une bonne nouvelle, puisque d'une certaine manière, on ne cesse de dire que les jeunes sont désengagés politiquement. Or, à mon sens, au contraire, c'est que ce désengagement politique, il se fait peut-être à la faveur d'un réengagement civique.
C'est ce que vous prouvez d'ailleurs avec Frédéric Dabi.
C'est ce qu'on essaie de prouver dans le livre, et je pense que ça, c'est une façon aussi de voir positivement l'avenir et de faire confiance à cette jeunesse pour bouleverser les choses.
Alors néanmoins, tout à l'heure, Agnès Michelot parlait d'éco-anxiété. On va essayer de revenir un petit peu sur les aspects un peu plus, je dirais, psychologiques, voire métaphysiques de l'enjeu de la société bas carbone. Dans son dernier livre, Pierre Rosanvallon, qui s'appelle donc Les épreuves de la vie, le sociologue Pierre Rosanvallon explique qu'il faut porter une plus grande attention aux ressentis des Français, à leurs émotions, à leurs affects. On écoute un passage d'une de ses interviews où on se retrouve juste après.
L'épreuve de l'incertitude, c'est le rapport à l'avenir. Comment on peut se projeter dans le futur ? L'être humain, ce n'est pas simplement quelqu'un qui vit au présent. L'être humain, c'est quelqu'un qui veut se projeter dans le futur. Et s'il y a des formes, plus les formes d'incertitude sont grandes, plus son identité profonde, elle est menacée d'une certaine façon. Donc toute l'histoire moderne, c'était de réduire l'incertitude. Un grand philosophe politique, Hobbes, disait « L'État doit être défini comme un réducteur d'incertitude. » Et au fond, l'État-providence, il a eu pour but de réduire cette incertitude, de prendre en charge les accidents de la vie, les risques de perte d'emploi. Alors qu'aujourd'hui, on voit que cette prise en charge, cette diminution de l'incertitude, eh bien, elle affaiblit. Et que renaissent, bien sûr, les nouvelles incertitudes concernant les pandémies, la crise climatique. Mais d'une manière générale, l'État lui-même apparaît moins producteur de certitudes.
Alors, c'était Pierre Rosanvallon sur France Inter. Stuart Shaw, je continue avec vous. Est-ce qu'on peut mesurer ce dont le sociologue parlait, c'est-à-dire une forme de mépris, de l'anxiété, si on atterrit sur l'enjeu environnemental, est-ce qu'il y a un sentiment d'impuissance qui finalement nous envahit tous en tant qu'individus, où finalement on se dit à quoi bon, et comment aller à l'encontre de ce sentiment d'impuissance ?
Ben oui, on le mesure. Alors, chez Via Voice, on a un baromètre qui s'appelle le baromètre des émotions qu'on fait en partenariat avec la Fondation Jean Jaurès et Le Point, qui montre très clairement que l'émotion qui prime aujourd'hui dans l'opinion publique, ce n'est pas forcément la colère, ce n'est pas l'envie de radicalité, c'est d'abord de l'indifférence. Voilà. Et je pense que ça, c'est à la fois problématique, ça peut être dangereux aussi d'un point de vue démocratique. Et sur nos enjeux-là, ça l'est encore plus, puisqu'on ne peut plus être indifférent à tout cela. Mais ce qui ne veut pas dire finalement que les Français sont indifférents aux enjeux, c'est que finalement, ils ont une forme de résignation aussi assez profonde qui s'exprime, qui s'explique par une crise du résultat politique, qui s'explique aussi, et je tiens à le dire, je l'ai répété depuis le début, mais par une incapacité à voir la finalité de tout ça. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un vocabulaire, il y a une sémantique dans le débat public et politique qui n'est pas toujours en résonance avec la grande majorité de l'opinion. Donc, pour rebondir sur la première capsule sonore que vous évoquiez tout à l'heure et que vous montriez, sur la capacité aujourd'hui des acteurs à pouvoir parler à une société qui les comprend, c'est d'abord aussi un enjeu. Et je pense que sur les mots de Pierre-Rosan Vallon, ce que je trouve assez juste, c'est qu'effectivement, il y a des émotions qui traversent la société, et cette émotion-là, pour moi, est la plus importante, c'est cette question d'indifférence et de résignation. Et quand on veut réengager une société autour d'enjeux comme celui de l'environnement, il faut savoir leur parler et s'adresser à eux. Et ça, je pense que c'est un enjeu des pouvoirs publics et des pouvoirs politiques.
On a coutume de dire que votre génération, hein, qui est très scrutée en ce moment, est victime de cette forme d'éco-anxiété. Stuart Shaw semble nous dire qu'il y a aussi quelque chose qui relève de l'indifférence. Comment vous situeriez vis-à-vis de ces émotions contradictoires ?
L'éco-anxiété, de toute façon, elle est réelle. Hein. Vous allez discuter aujourd'hui avec un jeune, il va vous parler assez rapidement d'environnement. Il y avait une étude qui était parue il y a quelques mois maintenant, qui était réalisée dans 10 pays, donc des pays à la fois des Nord et des Sud, qui montrait qu'il y avait 75% des jeunes en moyenne qui étaient inquiets ou très inquiets pour leur futur vis-à-vis du changement climatique.
Est-ce que ça les décourage ou est-ce que ça leur donne envie de faire quelque chose?
C'est totalement en lien avec ce que je racontais tout à l'heure, c'est qu'en fait, vous avez l'impression que vous ne pouvez rien faire. Donc quand Stewart dit qu'il faut que les pouvoirs publics parlent aux jeunes et comprennent les jeunes, il faut qu'ils agissent aussi. Parce que c'est ça ce que demandent les jeunes, en fait. C'est pas simplement des jolis discours qu'on leur sert depuis déjà un moment. Aujourd'hui, quand vous avez un pays comme la France, qui et d'ailleurs un groupement de pays comme l'Europe qui prennent des engagements, il faut aller encore plus loin, il faut réussir à faire bouger le monde, parce que sinon on va nous parler des Chinois, on va nous parler des Indiens, on va nous dire qu'il y a pire ailleurs et on va faire du relativisme.
Disons que la COP26 n'a pas aidé à l'encontre de cette...
Le problème, c'est parce que vous avez à la fois les jeunes qui sont très mobilisés et qui, je pense, étaient les vrais héros de la COP26, hein, parce qu'ils sont restés dehors tout le long, sous la pluie, à attendre et à essayer de mettre la pression sur les dirigeants internationaux, et heureusement qu'il y a des jeunes mobilisés sur ces questions-là, tout comme sur les questions sociales, on y était tout à l'heure, qui sont complètement indivisibles. En fait, vous avez vraiment ce problème, vous avez l'impression que vous ne servez à rien. Et ça, c'est pas possible. Et même dans le débat public aujourd'hui, on voit qu'en fait, l'environnement, on a l'impression de tout y savoir, parce qu'on est entouré de news sur l'environnement. De temps en temps, on entend qu'il y a un rapport du GIEC, on se dit, tiens, ça continue à bouger, alors qu'en fait, on ne s'adresse pas au fond des problèmes. Et ce qu'il faut, c'est pouvoir réussir à sensibiliser les gens, parce qu'il y a aussi ce besoin fondamental d'acceptation et de volonté. Il y a quelque chose de l'ordre de la transformation des imaginaires aussi. Quand on parle des jeunes qui veulent acheter ou consommer, c'est parce qu'aussi, on nous fait croire que la réussite, c'est d'avoir une Rolex à 50 ans, c'est d'avoir une grosse voiture, c'est d'avoir une grande maison, de partir en vacances à l'autre bout du monde pour 2 semaines, 3 fois par an. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la construction des imaginaires aussi, qui est essentiel. Et les jeunes aujourd'hui, quand ils se disent qu'est-ce que je peux faire pour le climat, où est-ce que je peux m'engager, ils s'entendent dire qu'ils sont radicaux et que l'écologie radicale, ça ne fonctionne pas, il faut une écologie pragmatique. Mais en fait, vous parliez de sémantique tout à l'heure, il y a quelque chose de l'ordre du dévoiement dans ces mots-là. Parce que qu'est-ce que ça veut dire finalement que radical? Ça veut dire aller à la racine. Donc n'importe quelle politique publique pour être efficace, doit sémantiquement être radical. Si aujourd'hui vous voulez être pragmatique et que vous avez 23 ans, ou que vous avez 70 ans et que vous avez des enfants ou des petits-enfants et que vous avez envie qu'ils vivent une vie correcte, ce qui à mon sens n'est pas un caprice, mais plutôt un droit fondamental, il faut que vous soyez radical. Parce qu'il faut remettre dans le contexte de ce que c'est. On ne va pas refaire un cours là maintenant à la fin de ce podcast sur ce que c'est que le changement climatique et les conséquences que ça va engendrer. Mais vous allez avoir des conséquences évidemment en termes de température, en termes d'événements climatiques, mais aussi sociales, aussi géopolitiques. Ça va être un bouleversement énorme. Et aujourd'hui, pour être pragmatique sur ces questions-là, il faut aller à la racine des problèmes. Quand vous êtes médecin et que vous avez un patient qui est atteint d'un cancer, vous ne mettez pas un pansement dessus, vous agissez directement sur les cellules malades. Et c'est exactement ça qu'il faut faire aujourd'hui de la part des acteurs qui ont le pouvoir, c'est-à-dire les États, les pouvoirs publics et les entreprises.
Laurence Monnier-Smith, je vous voyais approuver, sourire au propos de Léa Falco. Vous le savez, notre podcast s'appelle « Ça change tout ». Il faut quand même que les choses changent. Quels sont les motifs d'espoir qu'on peut offrir à nos auditeurs? Il se passe beaucoup de choses. Et cette société bas carbone, d'une certaine manière, alors on a encore une fois cette affaire de rythme et de rapidité, ça ne va pas assez vite. Et comme dit Léa, les rapports du GIEC nous rappellent sans cesse à la cruelle réalité. Néanmoins, qu'est-ce qu'on peut faire là immédiatement pour qu'on accélère et que finalement cette radicalité sans qu'elle soit prise dans le mauvais sens du terme, elle soit effective.
Alors moi, je vais rebondir sur une chose qu'a dit Léa, et qui me paraît extrêmement importante pour avoir réfléchi à ces questions et les avoir tournées dans tous les sens. Comment est-ce qu'on fait pour aller vite? Moi, aujourd'hui, il y a un truc qui me paraît complètement essentiel et qu'on peut faire assez rapidement, et c'est la transformation de la vision et des imaginaires. Je pense que c'est absolument indispensable et on doit le faire très vite. Bon, vous avez dit tout à l'heure, je travaille au CNES. Tout le monde ne sait pas ce que c'est, le Centre National d'Études Spatiales. C'est un peu moins connu que la NASA, mais c'est la même chose chez nous.
Enfin, on a Thomas Pesquet quand même, pardon.
Voilà, mais il n'est pas au CNES, Thomas, mais il est Agence Spatiale Européenne. Mais c'est quand même notre petit frère, effectivement. Le constat, je crois que c'est tout à fait juste. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose? On propose, il y a un discours d'éco-anxiété, très collapsologue, très très anxieux. Moi, j'ai 3 enfants, ils sont complètement dans cette approche-là, ils ont entre 17 et 22 ans, et ils sont totalement angoissés à cause de cet avenir. On leur propose, donc il y a un discours collapsologue, etc., il y a un discours extrêmement radical sur les sujets qui ne sont pas des sujets environnementaux, mais qui, attisant les problématiques environnementales qui sont liées aux difficultés, aux injustices que peuvent reconnaître les uns et les autres, qui est un discours extrêmement dur et extrêmement violent, de renfermement sur soi, etc. Et tout ça dans un imaginaire qui est un imaginaire de notre société libérale de consumérisme complètement fou. Qu'est-ce qu'on propose? Comment on peut donner envie aux jeunes de vouloir changer pour quelque chose de positif? Je crois qu'il est indispensable de construire ça. Alors pourquoi je parle de l'espace? Parce que l'espace a été, au moment du discours de Kennedy sur la nouvelle frontière, sur le fait d'aller sur la Lune, il a été très très structurant dans la construction d'imaginaire des années 60, où on avait en fait une vision de l'homme, hein, curieux, pionnier, qui va aller
aventureux,
qui se dépasse. Il y a des choses très positives, la curiosité, le dépassement de soi, etc. Derrière ça, il y a l'imaginaire de la compétition, de la compétition, du néo-darwinien, c'est-à-dire que le meilleur gagne. Et tout ceci est un imaginaire qui a accompagné complètement notre société de consommation.
Qui a fonctionné.
Et qui, alors, à certains égards, ça dépend.
À l'aune de ce que disait Kennedy,
enfin,
en tout cas.
Si vous allez interroger quelqu'un qui habite aux Seychelles et qui a les pieds dans l'eau, qui est aux Maldives et qui dans 20 ans n'existera plus, on ne peut pas dire que ça a marché.
Je parlais du point de vue de Kennedy, voilà. En 69, ils ont fini par y aller sur la Lune.
C'est une question de point de vue, c'est quand même intéressant.
Alors, il ne fallait pas aller sur la Lune, alors, mais pourtant, vous travaillez au CNES.
Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'on a construit un imaginaire qui a accompagné tout ça et qui s'appuie sur des grandes figures, qui s'appuie sur des grands hommes, plus que sur des grandes femmes, qui s'appuie sur des symboles, etc. Bon, comme on en a eu d'ailleurs dans l'histoire, l'exposition universelle, on a eu des grands imaginaires. Où est l'imaginaire de la société sans carbone? Il est où? Nous avons des tas d'artistes qui travaillent là-dessus, nous avons des tas d'architectes, nous avons des tas de scientifiques, nous avons d'ailleurs des tas d'écrivains. Et ça nous a donné un peu l'idée d'ailleurs avec un collectif, avec l'Université de la Pluralité, avec un certain nombre d'amis, de dire voilà, on va faire un festival qui va s'appeler Narratopia. Ce festival aura lieu en 2023, au printemps 2023, et on va lancer un appel, grand appel à candidats et un appel à proposition début 2022 pour justement mobiliser l'ensemble de ces récits, qu'ils soient des récits, qu'ils ne soient pas des récits d'effondrement, des récits dystopiques, mais qu'il faut restructurer. C'est-à-dire, ma société à moi, en 2060, elle ressemble à quoi? Qu'est-ce qui me fait envie? Qu'est-ce qui va faire kiffer les jeunes? En gros, c'est quand même ça. Hein. Parce que sinon, et ça, on peut le faire très très vite. Parce que sinon, effectivement, on est chacun renvoyé à son individualité. Je ne reprends pas le discours qui a été fait tout à l'heure. Donc pour moi, l'urgence, c'est ça. Et c'est certainement pas Elon Musk qui va aller faire du tourisme spatial. C'est certainement pas de la prédation avec des débris qui tournent autour de la Terre parce qu'on est en train de tester notre capacité de tir satellitaire. Donc c'est pas ça. En revanche, il y a certainement du désir de low-tech, il y a certainement, mais aussi de high-tech à certains égards, mais aussi d'autres formes de sociabilité, d'autres formes de rencontres, d'autres formes d'art aussi. Et je pense que l'art est hyper important dans l'affaire. D'autres formes d'architecture, que nos villes, nos bâtiments, à quoi ils vont ressembler, où j'ai envie de vivre. Et ça, il faut l'écrire. Donc nous, modestement, on va contribuer là-dedans et on espère que ça marchera.
Très bien. Bah écoutez, les récits, de nouveaux imaginaires, je crois que ce sera le mot de la fin. Merci vraiment à tous les trois, Stuart Cho, Laurence Poney-Smith, Léa Falco, d'avoir été avec nous pendant ces quelques dizaines de minutes. Ça change tout, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, partager cet épisode, mais aussi tous les anciens épisodes de cette série de podcasts sur la transition énergétique proposée par EDF. Et si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien rendez-vous sur le site d'EDF pour découvrir la revue consacrée à notre thème du jour, la société bas carbone, avec des contenus enrichis, des interviews, des reportages. Salut à tous, à la prochaine fois.